Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vulgaire. Les amis, dans ce nouvel épisode de Vulgaire, et ben devinez quoi ? On va une nouvelle fois partir en...
Voyage.
Cette fois-ci, on va s'aventurer du côté du Cambodge et de son ravissant, son stupéfiant, son étourdissant, que des trucs en bref, son fameux site d'Angkor. Situé à côté du plus grand lac d'Asie du Sud-Est, à côté de la ville de Siem Reap, c'est un site archéologique qui est classé depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Vous avez peut-être eu la chance de visiter ces temples, hein, qui sont plus beaux les uns que les autres, et vous vous êtes déjà peut-être plongé dans l'histoire du peuple Khmer à travers son art si particulier. Mais si c'est pas le cas, pas de panique, hein, encore une fois, je suis là, je serai votre guide, votre phare dans la nuit. Une étoile polaire, ou tout simplement votre Lara Croft pour vous aider à explorer la jungle cambodgienne. D'ailleurs, c'est fou parce que quand on arrive là-bas et qu'on marche sur ces temples, on a vraiment l'impression qu'on est les premiers à les découvrir tellement là. Non, j'y suis jamais allée. Mais comme je m'y connaissais pas bien, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le site archéologique d'Angkor est un des plus vastes et des plus beaux au monde. Niché en plein cœur de la jungle, le site s'étend sur plus de 400 km² et a été la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 14e siècle. Et pendant tout ce temps-là, 39 rois se sont succédés à la tête de l'Empire et chacun s'est employé à construire des temples. Et ça a fait que ça a repoussé toujours plus les limites de la ville. À son apogée, au 12e siècle, la ville elle s'étend sur plus de 1000 km² et domine une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Il n'y a pas moins de 750 000 habitants. Pour comparaison, hein, Paris, à la même époque, il y avait moins de 50 000 habitants. Voilà, Paris, c'était Châteauroux, si vous voulez. Alors, j'ai rien contre Châteauroux, hein, mais voilà, aujourd'hui, 50 000, c'est plus le nombre d'habitants au kilomètre carré. Alors, la vastitude de l'Empire, parce que ça existe bien, vastitude, hein, c'est pas du tout à moi inventé, eh bien, c'est lié au fait que chaque roi voulait construire son ou ses propres temples pour asseoir un petit peu plus son pouvoir et son autorité. C'est vrai que c'était un peu galère, hein, c'est un petit peu comme si nous, on construisait un nouvel Élysée à chaque nouveau président. Bon, voilà, clairement, on pourrait plus circuler dans Paris. Hein. Oui, bon, ça ne changerait pas grand-chose. Après, il semble qu'au-delà de la puissance royale, les temples avaient aussi une vocation spirituelle et funéraire. En effet, après leur mort, les souverains étaient inhumés ou leur sang était placé dans le sanctuaire des temples. D'ailleurs, à ce moment-là, ils chantaient du Kyo. Hein. Vous l'avez ? Encore ? Par rapport au temple ? Excellent. Donc chacun son temple, pas de mélange de sang, hein, pas de J c'est le S, dans le J c'est le J. En plus de ça, il y avait d'autres temples qui étaient aussi érigés en mémoire des parents des souverains, donc ça commence à faire pas mal de temples. Hein, donc on étend, hein, car comme dirait Clara Luciani, il faut quand même que ça respire encore. Ouais, je vais caler un maximum de références musicales avec encore, parce que c'est excellent. Au départ, les temples étaient construits en briques, matériaux relativement simples à utiliser. Mais vers la fin du Xe siècle, les architectes cherchent à rendre des temples toujours plus complexes et sophistiqués, et donc ils commencent à utiliser le grès qu'on voit acheminer depuis une carrière située à une vingtaine de kilomètres. Mais vous imaginez le bordel et le transport des pierres, les ouvriers devaient faire ça de grès ou de force, hein. Bon, mais revenons, après ces très mauvais jeux de mots, si vous le voulez bien, au début du IXe siècle, au commencement de l'Empire. En 802, Jayavarman II, un gars dont on ne connaît pas grand-chose mais qui a l'air d'éther et plein d'ambition, se fait nommer un monarque universel. Bon oui, pourquoi pas, hein. Il instaure même par là le concept de dieu-roi, hein, on dit déjà Rava. C'est-à-dire tout simplement, il est l'incarnation de Dieu, en l'occurrence de Shiva, un des trois dieux hindouistes, et donc le peuple doit l'adorer et le vénérer tel une divinité. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à cette époque, la région actuelle au Cambodge, c'est juste quelques petits états rivaux qui sont la guerre. Jayavarman II, il conquiert donc petit à petit tous les territoires alentours et il fonde l'Empire Khmer. Le nom Jayavarman signifie d'ailleurs « conquérant victorieux ». Bon, le mec, il avait quand même un petit peu le boulard, on va pas se mentir.
Oh bon !
Il décide donc d'installer la capitale dans la région d'Angkor à Mahendraparvata. au nord-est de l'Empire, à une quarantaine de kilomètres du futur temple d'Angkor Wat. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord. Jayavarman II meurt en 834. Son fils, Jayavarman III, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de s'appeler avec des numéros, hein. Je pense qu'actuellement, là, on est en 2024, ils doivent être à Jayavarman 244 à peu près, voilà.
Le premier numéro de ce soir, le 18. On enchaîne avec le second numéro, le 34.
Bref, il prend le relais et par la suite, ce sont donc 37 rois qui se succèdent et qui ont poursuivi l'unification et l'expansion du royaume. Alors, on va pas s'intéresser à tous, hein. Désolé les gars, on a quand même pas toute la journée. Mais on va quand même parler de 34 d'entre eux, j'espère que vous avez un petit peu de temps.
Combien ?
Non, c'est faux, on va juste quand même parler de ceux qui ont un peu plus marqué encore de leur empreinte. Et parmi eux, il y a Indravarman Ier, roi de 877 à 889. C'est lui qui fait construire le premier édifice encore visible, le Préako, tout en briques et dont le sanctuaire central est dédié à Jayavarman II, le monarque universel. Voilà, je crois que c'est le temple qui a coûté le moins cher, d'où son surnom, le Préako Zéro. C'est aussi Indravarman Ier qui fait construire le Bakung, temple d'État et premier temple montagne, en 880. Mais alors, vous direz probablement, qu'est-ce qu'un temple montagne ? Y a-t-il un quelconque rapport avec un pass montagne ? Eh bien non, pas du tout, il s'agit d'un temple, donc un lieu de culte, mais avec une forme bien particulière. Chez les hindous, c'est en Inde, sur le mont Meru, que vivent les dieux. C'est un peu comme l'Olympe chez les Grecs, si vous voulez. Eh bien, le temple montagne s'est construit au sommet d'une pyramide à degrés, c'est-à-dire avec des étages qui sont toujours en nombre impair et qui est censé représenter le mont Meru. En gros, chaque temple comporte 5 tours qui symbolisent les 5 pics du mont. Il y a des enceintes autour qui représentent la chaîne de montagnes qui encercle le mont Meru, et puis il y a aussi des douves autour des temples qui représentent l'océan cosmique qui sépare le monde des dieux de celui des hommes. Tout était très pensé. Indravarman Ier crée aussi le premier barret. Alors un barret, c'est un grand réservoir d'eau qui permet de récupérer l'eau de pluie ou les rivières entre mai et novembre, à la saison des pluies, et de le redistribuer grâce à un système de canaux vers les rizières à la saison sèche. Encore une fois, ça c'est quand même plutôt malin.
Non, je vois bien, moi-même j'ai fait installer, si vous voulez, un récupérateur d'eau dans mon jardin en Bretagne. C'est extraordinaire, ça remplit hyper vite parce qu'actuellement ça, il pleut quand même pas mal, on va pas se mentir. Donc là, on va pouvoir arroser quand viendra le soleil et tout là. On va être bien. Non, je conseille. Bah franchement, bien. J'imagine qu'ils sont allés à Leroy Merlin, tous les monarques, là.
Vient ensuite Yasovarman Ier, qui va régner de 889 à 910. Alors c'est lui qui va déplacer la capitale à Yasodhaparuda. À Yasodharapura, voilà. L'actuel Angkor qu'on visite encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est bien qu'ils aient changé le nom, finalement. Il va y construire des petits temples, des templinets, en quelque sorte, tels que Phnom Bok et Phnom Krom. Il fait aussi creuser le Barré Oriental, qui est un grand lac artificiel alimenté par la rivière Siem Reap. Il mesurait environ 1150 mètres de long sur 1740 mètres de large, et il pouvait contenir près de 50 millions de mètres cubes d'eau, et il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était quand même très très grand. Bon, ok, avec tous ces détails, je pense que vous commencez à fatiguer un peu. Est-ce que vous en voulez encore ?
J'entends rien, est-ce que vous en voulez encore ?
On peut donc poursuivre l'aventure avec le temple le plus célèbre et le plus visité d'Angkor, qui est devenu un symbole du Cambodge et qui figure carrément sur le drapeau national. Je veux bien entendu parler de Angkor Wat. Alors quand je dis bien entendu, moi j'en avais jamais entendu parler avant, mais c'est pour le principe. Ça a été construit entre 1113 et 1150, c'est un gigantesque temple et ça s'étend sur une surface de 1,3 km par 1,5 km, c'est énorme. Et ça combine la finesse de l'arc Khmer à l'ingéniosité architecturale de l'époque. Bon, le roi à l'origine du projet, sur Yavarman, il a quand même une histoire un peu particulière. Tous les noms sont incroyablement durs à dire, donc ne m'en voulez pas si vous connaissez bien ces noms et que je les ai mal prononcés. Je donne mon max. Donc on est en 1107. Là, il y a Darindravarman Ier qui monte sur le trône suite à la mort de son frère. Là, l'Empire Khmer vit une période pas dingue-dingue, il y a des troubles, une guerre civile, c'est pas la grosse déglingue. Et le nouveau roi, qui avait peut-être pas prévu de reprendre les rênes tout de suite, voire peut-être même pas du tout, il a pas beaucoup d'ambition, puis il galère à remettre de l'ordre au sein de son empire. De son côté, son petit-neveu, Suryavarman, lui, il y croit encore. Il est beaucoup plus intéressé par le pouvoir et il rêve secrètement de gouverner l'Empire. Cinq ans plus tard, il lance donc tout naturellement une offensive contre le tonton et le tue en toute simplicité parce que, voilà, il y a une super ambiance dans cette famille, visiblement. Donc il se fait couronner vers 1113 et il devient le roi Suryavarman II. Et effectivement, il va rétablir l'ordre et il va s'employer à solidifier l'Empire. Voilà, il a tenté quelques petites conquêtes vers le Vietnam, par exemple, mais bon, le bilan, il est quand même un peu mitigé. En revanche, on peut reconnaître qu'il a excellé dans la construction de son temple. Donc, Angkor Wat, c'est quoi ? Eh bien, c'est un temple montagne exceptionnel. Je vous ai expliqué il y a deux minutes ce que c'était qu'un temple montagne. Et c'est même carrément le plus grand monument religieux du monde. Il y a 5 tours en boutons de fleurs qui se dressent vers le ciel. Il y a des bas-reliefs magnifiques qui sont sculptés à même la pierre. Et ces bas-reliefs, ils représentent différents récits populaires issus de la mythologie hindouiste. Encore, c'est grand, c'est fin, c'est magnifique. Sur les bas-reliefs, on retrouve aussi, par exemple, il y a 1800 devatas ou apsaras. C'est des divinités féminines qui sont parées de bijoux, avec des coiffures élaborées. Il y a des costumes qui sont décrites comme des nymphes, des courtisanes célestes. Et franchement, courtisanes célestes, je trouve ça assez classe. Moi, je trouve qu'on devrait arrêter de dire travailleuse du sexe, on devrait dire courtisanes célestes. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Bon, aujourd'hui, quand tu y vas ou quand tu regardes des photos, le temple d'Angkor, c'est quand même vachement gris. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque, les murs et les pierres de grès étaient colorés en blanc, en rouge, en bleu. En fait, si vous voulez, il y avait 50 nuances de grès. Voilà. Et les toits étaient dorés, comme Julien. Ça devait être assez dingue. Alors jusque-là, les prédécesseurs de Suryavarman II, ils consacraient leur temple à Shiva. Lui, il a envie un petit peu de se démarquer des autres et un peu asseoir sa légitimité en tant qu'usurpateur, hein, on va pas se mentir. Donc il s'associe, lui, à un autre, voilà, il fait un autre partenariat. Il s'associe au dieu Vishnu. Les autres temples khmer, ils étaient orientés à l'est. Lui, il va se dire, je vais tout orienter vers l'ouest. Vishnu étant le souverain des territoires de l'ouest. Et figurez-vous que deux fois par an, lors d'une équinoxe ou d'un solstice, eh bien, le soleil se lève et se couche exactement dans l'axe du bâtiment qui coïncide pile poil avec les points cardinaux est et ouest. Et attention, c'est pas fini, parce que quand il est à son zénith, le soleil éclaire une salle située à 30 mètres sous l'orifice de la pierre, au sommet de la tour centrale, salle qui est tout simplement prévue, selon certains, pour accueillir le tombeau de Suryavarman II. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse, mais quand les enfants Khmer, qui étaient impatients, hein, attendaient ce fameux moment, ils n'arrêtaient pas de répéter «
C'est quand que le soleil il éclairait la pièce du roi ?»
Et alors on leur répondait « Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. » Et finalement, le soleil finissait par arroser la pièce de sa lumière. J'en rêve encore. Vers la fin du XIIe siècle, Angkor Wat va progressivement passer de l'hindouisme au bouddhisme, qui est devenu la religion officielle. Et c'est un des temples les mieux conservés, car il ne sera jamais complètement abandonné. Il va même continuer d'être utilisé par des moines bouddhistes au XVe et au XVIe siècle. Le fait qu'il y ait des douves qui l'entouraient, ça a vachement protégé la jungle aussi, qui a repris ses droits sur beaucoup d'autres temples. Bon, mais on avance un petit peu dans le temps, et on va s'intéresser maintenant à celui qu'on surnomme le roi bâtisseur, parce que c'était le plus puissant roi d'Angkor qui a régné. C'était entre 1181 et 1218. Et alors lui, il a amené l'Empire au sommet de sa gloire et de son prestige. Et il s'appelle Jayavarman VII. Voilà, c'est lui qui a apporté le bouddhisme à Angkor. Bon alors, encore une fois, un petit peu de contexte. En 1177, les Chams, je suis désolée, mais à chaque fois que je parle des Chams, je pense aux Lucky Charms, hein, les céréales dorées avec des marshmallows. Ou alors à Thierry Cham, celui qui chantait « Tout fond des océans, j'irai chercher ton regret. Regarde, je ne me donne même le temps. » Que tu sois près de moi tout le temps. Ça n'a rien à voir, mais il fallait que je vous le dise. Bref, donc, les Chams du royaume et les Champas attaquent encore et détruisent la capitale royale. Ils occupent le territoire khmer pendant près de 4 ans. Et Jayavarman, qui n'était alors qu'un prince, décide de contre-attaquer. Parce qu'évidemment, quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Faut s'y attendre. Il reprend la capitale, il chasse les Chams. C'est facile à dire. En 1181, et il monte sur le trône. Il va y rester près de 40 ans, pendant lequel il va étendre les frontières du royaume, depuis la côte vietnamienne jusqu'aux frontières de la Birmanie. Jayavarman VII, c'est celui qui a construit le plus de temples à Angkor. Il y a le Bayon, le Bantek De, le Nekpin, le Satom, le Preakan, le Taprom, et j'en passe. Le gars, il bossait à temple 1. Dans la temple 1, excellent. Mais si c'est vrai qu'il était très temple, il a aussi contribué à développer son pays. Il a fait construire des routes, les fameuses routes impériales qui reliaient la province à la capitale, notamment pour faciliter le transport de marchandises, hein, parce qu'il avait pas mal besoin de pierres, je pense. Mais aussi pour asseoir un petit peu plus son pouvoir. Il a fait construire tout le long des routes des relais, des sortes d'aires d'autoroute déjà, hein. Sauf que là, pas de station essence ni de café lyophilisé, mais bien des lieux de culte et des hôpitaux. Ce qui veut dire que les habitants pouvaient avoir accès à des soins pratiqués par des prêtres assez facilement. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'avant-gardisme du bonhomme en matière de santé publique, c'est quand même fou. C'est clairement pas un mec qui aurait dû dire « Ah ben je sais pas comment on met un masque, vraiment, je m'en rends pas compte ». Et c'est donc à lui, Jayavarman VII, qu'on doit la construction d'Angkor Thom, qui est une des plus grandes cités d'Angkor, qui signifie « grande capitale ». C'est une cité royale qui a un carré, voilà, ça fait 3 km de côté à peu près, entourée d'un rempart qui est haut de 8 mètres et c'est bordé par des douves. Et au cœur d'Angkor Thom, on trouve le fameux Bayon, qui est construit entre la fin du XIIe et le début du XIIIe. C'est un temple montagne sublime, où trône une majestueuse pyramide de pierre. La particularité du Bayon, c'est dans ses tours en fait. La plus haute tour culmine à 43 mètres de hauteur. Il y en avait 54 à l'origine qui représentaient les 54 provinces de l'Empire Khmer. Et elles sont toutes ornées de 4 visages tournés vers les 4 points cardinaux. On ne sait toujours pas vraiment si elle représente des divinités, des rois ou Jayavarman en personne quatre fois. Mais quoi qu'il en soit, ces visages aux yeux fermés et au sourire apaisant, ça donne une atmosphère un peu particulière au lieu. Bon, alors il y a pas mal de bâtiments aussi qui rendent le site d'Angkor Thom exceptionnel, comme par exemple le Bafuon, qui a été construit bien avant sous un autre roi, parce que Jayavarman, il a fait un truc, c'est qu'il a fait construire Angkor Thom autour de temples préexistants, c'est-à-dire que lui, il s'est dit « je vais faire mon temple autour des autres temples », voilà, comme ça c'est réglé. Ça, c'est un temple énorme qui a une forme pyramidale, c'était dédié à Shiva, mais après, il a été utilisé par des moines bouddhistes, et ce qui est fou, c'est que si on prend un peu de recul sur la face ouest du temple, on voit un énorme Bouddha couché, qui est quand même un gros hasard et incroyable. Pendant près de 7 siècles, l'Empire Khmer, dirigé depuis la puissante cité d'Angkor, a étendu ses frontières et a développé un art et une architecture uniques. Et puis, il s'est tombé précipitamment dans l'oubli, au 15e siècle. C'est qu'au 19e siècle que des explorateurs et des archéologues français ont découvert Angkor. La ville, c'était plus qu'un vaste ensemble de ruines enchevêtrées dans des arbres et des racines. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à cette cité ? Hier Angkor avait 20 ans. Et depuis, on sait pas trop, Ouais, l'anatomie de la chute de l'Empire Khmer, elle est pas très complète. On pourrait en partie expliquer le déclin de cette civilisation parce qu'il y avait une rivalité avec des Siam thaïlandais entre le 14 et le 15e siècle. Il y a même eu un siège en 1431 qui a duré 7 mois et pendant lequel Angkor est tombé sous le joug des Siam. Et même si, a priori, ils ont pas totalement perdu, ils ont quand même battu en retraite vers le sud et ils ont quand même changé de capitale. La capitale, elle est passée à Phnom Penh en 1434. Et d'ailleurs, Phnom Penh est toujours la capitale aujourd'hui. Alors évidemment, je pourrais vous en raconter encore, ceci n'étant qu'un florilège de toute la cité d'Angkor et de tous ses temples si nombreux. Mais si vous voulez vous aventurer dans la jungle cambodgienne, il faut compter quand même au moins 3 jours de visite pour avoir bien le temps de tout voir, c'est pour vous dire. J'espère que je vous aurai donné envie de vous rendre dans ce lieu mystique et mythique. En tout cas, moi-même, je ne l'ai jamais visité. Et si j'ai fait tout ça, c'est pour que tu m'aimes encore. Voilà, ça c'était les temples d'Angkor, mais en vulgaire.
Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Quentin Thiriot, moi c'est Marine Baousson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast « Attendre d'attendre un enfant », c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force détail, comme si vous étiez mes meilleurs poteaux. Je m'appelle Sophie Rich et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Et oh, on n'est pas des bêtes, ok ? Attendre d'attendre un enfant, un nouvel épisode tous les lundis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !